Chapitre 3. Le filet de l'oiseleur. Ma faute ? Répéta Thérèse aussi indignée que stupéfaite. Vous osez dire que c'est ma faute ? Il s'avança d'un pas, elle recula encore. La porte du petit salon était ouverte derrière elle. Involontairement, elle passa le seuil, Pierre Coum la suivit et se trouva dans la place. « Oui, c'est votre faute. À force de n'être pas coquette, vous faites plus de mal qu'une fiefée coquette n'en ferait. Si vous êtes froide comme votre Jungfrau, pensez-vous qu'un homme soit à la même température ? Ah, tenez, Thérèse, vous me désespérez !» Il se jeta à genoux devant la jeune fille, qui tomba plutôt qu'elle ne s'assit sur la chaise que son heure effrayée rencontra. Alors Pierre Coum, les mains étendues, enfouit son visage dans les plis de la robe de Thérèse et murmura d'une voix étouffée « C'est vrai, j'étais fou. Thérèse, aimez-moi un peu, un tout petit peu, par pitié. »« Levez-vous, » cria-t-elle, « ne restez pas là, c'est affreux, je ne veux pas. » Elle repoussait cette tête que ses doigts effleuraient pour la première fois. Un excès d'humiliation, une attitude et une voix suppliante la faisaient trop souffrir pour le suppliant lui-même. « Demandez pardon si vous voulez, mais pas à genoux, non » protesta-t-elle. Elle se dressa, il se releva en même temps et ils restèrent là, debout, elle blanche comme un linge, lui raide et contracté, retenant son geste, crispant ses doigts. Et tout à coup, avec l'étrange facilité qu'il avait de s'esquiver dans une direction imprévue, il demanda « À présent, qu'allez-vous faire ?»« Me sauver d'ici, cela va sans dire. Retournez chez Madame Stephen. » La voix faillit lui manquer, ses genoux fléchirent, elle chercha le dossier de la chaise pour s'y appuyer. « Ne pâlissez donc pas ainsi » s'écria-t-il. Il y a de quoi, après des scènes pareilles, protesta Thérèse, sentant trop bien que cette phrase était une concession, que n'importe quelle phrase était une concession, qu'il fallait, impitoyablement, montrer la porte à Pierre Coum et mettre le verrou. Avez-vous seulement déjeuné ? Demanda-t-il avec une sollicitude inattendue. Non, le gaz ne marche pas. Le gaz ne marche pas ? On met un penny dans le slot, dans la fente du distributeur. « J'ai oublié de vous dire cela hier au soir. C'est le genre de compteur qu'on a dans ces maisons. Vous recevez du gaz pour un penny. Ah, mon Dieu, pauvrette, vous ne savez donc rien ?»« Non, je ne sais rien, » murmura-t-elle. « Rien de ce qu'il faudrait. »« Moi non plus, je n'ai pas déjeuné, ni dîné d'ailleurs. Laissez-moi faire. Je descends, mais ne verrouillez pas la porte. Dans un quart d'heure, vous aurez... Nous aurons un bon petit déjeuner anglais, du lard frit, des toasts. » Était-il vraiment possible que ce fût elle, Thérèse Lemaire, bardée de principes, elle, assise à cette petite table, en face de Pierre Coum qui la servait ? Il avait fait le café, grillé le bacon et le pain. « Je n'ai pas toujours eu un cuisinier pendant que je roulais aux Indes et ailleurs. Vous n'imaginez pas ce que je sais de choses utiles. » Tout au rebours de vous qui en savez beaucoup d'inutiles, comme, par exemple, toutes les capitales de l'Europe, je gage. « Tiens, je l'espère bien !» fit Thérèse qui ne put s'empêcher de rire. Oui, elle en était là. Elle riait en humant le bon arôme du café, en savourant la mince tranche de lard croquant et le toast qui luisait de beurre. « Est-ce aussi bien que le déjeuner, Stephen » demanda-t-il. « Ah, beaucoup mieux, il n'y a pas de comparaison !» concéda-t-elle. Et tout de même, vous retournerez à ce perchoir. Ce ne sera pas aussi facile que vous le croyez. Vous avez loué ici pour 6 mois. Jamais de la vie, je n'ai rien signé. Vous avez pris possession, cela revient au même. Naturellement, vous pourrez toujours discuter cela avec le gérant, mais je doute qu'il vous tienne quitte à moins du loyer d'un mois. Un mois, ce serait 100 francs, fit-elle consternée. Quel trou dans mes finances ! Précisément, votre idée est-elle bien raisonnable ? Qu'y a-t-il de changé dans la situation ? Rien du tout, il me semble. Il suffit d'oublier qu'hier soir j'ai perdu la tête. Cela n'arrivera plus, je vous en donne ma parole. Vous aurez des leçons demain, vous ferez votre gentil petit ménage, vous mettrez un penny dans le slot, tout ira sur les roulettes. Non, je ne vous vois pas retournant chez Madame Stephen. Ce serait trop humiliant. Ma chambre est prise, pensa Thérèse. J'ai coupé les ponts, c'est vrai. et moi qui avais commandé pour vous cette petite plaque que j'allais fixer sous votre sonnette. Je l'ai reçue hier soir dans ma boîte aux lettres. » Sur la mince surface d'émail blanc, Thérèse lut deux lignes, cours de français, conversation. « Vous êtes d'une obligeance ?» murmura-t-elle un peu ironiquement. « N'est-ce pas, toujours le bon vieux camarade à votre service ? C'est dit, je fixe la plaque avec ces quatre petites vis que vous voyez. J'ai même apporté un tournevis. Après quoi, je file à mon journal. Quand puis-je revenir ?»«
Vous tenez à revenir ?» demanda-t-elle faiblement.
« Si j'y tiens, je l'ai prouvé, je crois, sur mes genoux. » fit-il d'une voix singulière, comme pleine de ressentiment. Vers la fin de l'après-midi, déjà, Thérèse eut la visite d'une voisine de palier que la petite plaque d'émail blanc attira.
« Je suis Miss Lona, du Café Chantant de l'Écureuil. Vous connaissez ?»«
Pas très bien, » avoua Thérèse, en avançant une de ses chaises fragiles à la demoiselle et aux étoffes répandues de sa toilette, jupe traînante, grand volant, énorme manche bouffante aux épaules et cachant à peu près ses mains sous un flot de dentelle.
« J'ai vu que vous offrez un cours de conversation française. Je suis vite venue parce que j'étudie une chansonnette qui a un refrain. Comment dites-vous ça ? Miguenonnette, miguenonnette, savez-vous ? »
Elle prononça ces quatre mots français de la façon la plus bizarre. Au bout d'un instant, Thérèse arriva à les reconstituer.
« D'abord, on ne dit pas miguenonnette, » fit-elle. « Voulez-vous prendre une leçon tout de suite ?»«
Non, je vais sortir. Mais ce soir, j'amènerai deux ou trois ou quatre amis de l'écureuil. C'est relâche pour 15 jours. Alors, on se tourne les pouces. Quelles sont vos conditions ?»«
Pour un cours de 2 heures, 10 shillings. »«
Nous serons 5. Cela ferait 2 shillings chacune. »
« Vous ne pouvez pas à moins ?»«
Non, pas d'offense. Entre nous, puisque vous êtes française, comment trouvez-vous mon petit fardage ? Trop, trop peu ?»«
Très bien, juste à point, » répondit Thérèse d'un ton connaisseur qui la fit rire en dedans.
« Bon, merci, je me sauve. À ce soir. »
Vers 9 heures, 5 demoiselles décolletées, assez minables et défraîchies quant à leurs atouts, affectant des airs de femmes du monde dans leur allure et leur conversation, furent présentées à Thérèse par Miss Lona, et tout de suite, leurs voix perçantes de perruches réclamèrent d'apprendre le français.
« Supposons, dit Thérèse pour canaliser ce zèle, que vous arrivez à Paris. Jouons à cela si vous voulez. Arrivez à Paris. » Elle parlait anglais tant bien que mal, puis, en français, elle appela un porteur pour les bagages. Elle fit l'employé d'octroi, et puis le cocher de fiacre, elle donna une adresse d'hôtel, elle discuta le prix d'une chambre. Il lui parut que ses élèves, peu blasés vraiment, s'amusaient comme de petites folles. « C'est aussi bête que le cours Sylvain, » pensait-elle, un peu humiliée. Pour finir, Miss Lona chanta sa chansonnette, dont le refrain, miguenonnette, fut repris en chœur. Personne, à 11 heures, ne faisait mine de s'en aller.
« Nous sommes toutes de la maison, on est bien ici. Vous n'allez pas nous chasser ?» implorèrent les 5 demoiselles.
« Mais si, pour moi, il est assez tard, » fit Thérèse, impitoyable. Elle se demanda si elle devait tendre une sébile à la ronde pour récolter ses 10 shillings. Miss Lona lui en épargna la peine en lui tendant, d'un geste officiel, un large cachet de cire rouge sur une carte où il était écrit « pour 10 shillings ».«
Ce sera bien ainsi, n'est-ce pas ? Nous paierons quand il y en aura 10 ».«
J'aimerais mieux, » essaya de dire Thérèse. Mais la volière s'était déjà vidée avec des cris dans l'antichambre et dans l'escalier. Pendant la quinzaine qui suivit, Thérèse donna encore 8 fois ce cours folichon, sans roi, à conduire patiemment son escouade aux Invalides, au Bon Marché, à Versailles, dans les endroits où elle n'était jamais allée elle-même. Elle repêcha dans sa caisse de livres un vieux guide de Paris qui lui rendit le service d'étayer ses inventions par quelques notions exactes qu'elle distribuait avec un méritoire aplomb. Elle possédait 9 cachets dans le tiroir de son lavabo. La bande était venue presque tous les soirs. Et alors, juste au 9e cachet, ni vu ni connu, plus personne ne se montra. Thérèse sonna en face chez Miss Lona, qui ne passa que le bout de son nez à la fente de sa porte.
« L'écureuil a rouvert, nous ne sommes plus libres qu'après minuit. Trop tard pour vous, n'est-ce pas ? Vous me devez, à vous cinq, 4 livres et 10 shillings, fit Thérèse qui mit son pied dans la porte pour l'empêcher de se refermer.
Parfaitement exact. Encore une leçon et ça fera 10. Nous réglerons comme convenu.
Quand prendrez-vous cette 10e leçon ?
Un de ces jours. N'ayez pas peur, nous sommes d'honnêtes personnes.
Pierre Coum avait passé presque tous les jours vers la fin de l'après-midi.
Si tous mes élèves sont de ce calibre, fit Thérèse en lui racontant son entretien avec Miss Lona.
Et vos amis à vous, qui désiraient apprendre le français ?
Pour le moment, cela ne s'arrange pas, j'en suis très ennuyé, répondit-il d'un ton contrit qui ne parut pas, à Thérèse, sonner d'un très bon timbre.